Art et culture.
Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le signal sonore.
Salut !
Salut, on est les ambassadeurs du théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap, et on vous appelle pour vous poser des questions sur le spectacle que vous venez présenter. Si vous pouvez nous rappeler, ça serait super cool. Merci !
Allô ? La compagnie des Estivants ?
Oui, oui, oui.
J'aimerais pouvoir poser quelques questions à la directrice de production de la compagnie.
Oui, 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 c'est moi.
Ah bah super. Bah alors, c'est parti. Bonjour Lysiane, donc tu es la directrice administrative de la compagnie des Estivants qui présente à Gap sa nouvelle création « C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule ».
Votre spectacle est librement inspiré des radios de nuit comme la célèbre émission « Allô Macha ». Quelle est la raison qui vous a poussé à créer un spectacle autour de ce sujet ?
Alors, donc là, c'est Johanna Giacardi qui est la directrice artistique de la compagnie et du coup qui met en scène les spectacles de la compagnie Les Estivants. Et il y a 2 ans, elle a découvert un livre qui parlait des émissions de radio la nuit. Et c'est comme ça qu'elle a découvert l'émission de Allô Macha, où des gens appelaient la nuit pour se confier. Et au même moment, dans sa vie, Johanna avait une envie de se confier. Et s'est dit que ces sujets finalement intimes qu'on abordait que la nuit, et ben ça pouvait être une question de le faire au théâtre.
Si l'émission existait encore de nos jours, en tant que citoyenne lambda, aurais-tu eu envie d'appeler Macha ?
Eh bien oui, 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 moi j'aurais eu envie, je sais que Johanna aurait eu envie aussi justement de pouvoir se confier, d'avoir un interlocuteur qu'on ne connaît pas au bout du téléphone.
Quand vous avez fait votre sortie de résidence à Badin il y a quelques mois, Johanna a réalisé une capsule vidéo. Dedans, elle évoque le fait que, je cite, « il n'y a pas d'endroit pour aller mal tous ensemble ». Que veut-elle dire par là ?
Alors souvent maintenant dans notre société, quand on va mal, ça peut être psychologiquement dans sa tête, et on peut aller consulter des psychologues, des psychiatres, et finalement on est dans une relation de 1 à 1 où je me confie à une seule personne. Et elle s'est rendue compte, elle a consulté, et se dire que bah, y a beaucoup de gens dans notre société qui vont consulter des psychologues, des psychiatres, donc on reste dans des relations très intimes 1 à 1, et que finalement on pourrait partager ça tous ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on se rejoint que pour des événements festifs, que les moments où on va pas bien, on se renferme sur soi et on n'en parle pas aux autres.
Est-ce que c'est l'idée de départ de la création du spectacle ?
C'est une question très intéressante, puisque l'idée du spectacle, elle mêle plusieurs thématiques. On a vu, il y a le thème de la radio, ou appeler pour se confier, le thème de la confidence. Finalement, quand on va chez un psy, on se confie aussi. Et au moment de la création, dans la vie personnelle de Johanna, il y a eu... elle a traversé un épisode assez mouvementé, et donc ça a orienté l'idée de ce spectacle, de se dire, mais en fait, si je vais pas bien, est-ce que aussi je peux pas le partager avec les gens ? Il n'y a pas que la joie qu'on partage, et est-ce qu'en partageant mes craintes, mes doutes, mes peurs, est-ce qu'on n'amène pas aussi de la joie en l'ayant partagé tous ensemble ?
Vous êtes déjà venu l'année dernière avec le spectacle La Saga de Molière, où le dispositif scénique était en trifrontal avec des gradins. Dans Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, on retrouve un dispositif circulaire. Pourquoi avoir conservé ce rapport scène-salle ?
Alors on a conservé ce rapport scène-salle parce que dans tous les spectacles qu'on crée avec la compagnie des Estivants, on n'a pas envie du quatrième mur. Le quatrième mur, c'est ce qui sépare habituellement le public qui est plongé dans le noir et qui regarde sur la scène les acteurs qui sont éclairés. Et finalement, nous, on aime bien que le théâtre, tout ce qu'on fait, c'est des choses de le montrer à vue. Quand on se costume, eh ben, que les gens puissent le voir. Quand on se maquille, que toute la fabrication théâtrale est visible de tous les spectateurs. Et parce que ça crée, vous avez dû le voir sur la saga de Molière aussi, un rapport au public qui est totalement différent. Il n'y a plus une séparation entre l'actrice et le public. Ça veut dire que moi, assis dans les gradins, en tant qu'actrice, je peux te parler à toi en tant que public sans qu'il y ait de hiérarchie. Et on est sur un même niveau finalement, tous assis ensemble au même endroit et au même moment. Et je pense que c'est ce qu'on cherche à creuser dans tous les spectacles qu'on fait avec la compagnie.
Dans l'émission Allô Macha, Macha Béranger accordait une importance à l'univers dans lequel elle recevait ses auditeurs. Dans quelle mesure cette démarche et la vôtre s'accordent-elles ?
Eh ben, on aime bien accueillir les gens. Je pense que c'est très important dans un spectacle, c'est de pas oublier qu'on travaille avec des humains et qu'on accueille des humains. Sur ce spectacle, comme sur la saga de Molière, on prend un temps d'accueil du public pour avoir le temps et le fait d'être dans cette scénographie aussi qui est circulaire. Eh ben, on peut tous croiser le regard des autres spectateurs et prendre le temps de tous s'installer, ce que ça rejoint le rapport d'égalité, d'être tous ensemble et l'accueil est primordial. Ouais.
Vous avez fait déjà une semaine de représentation à Marseille. Mais donc là, vous venez à Gap et c'est donc ce soir, ça sera votre première représentation officielle à Gap. Seulement, vous avez déjà présenté une partie du travail à l'usine Badin, en ce qu'on appelle la sortie de résidence, il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis sur le spectacle ?
Oui, il y a eu beaucoup d'évolutions parce qu'après l'usine Badin, on a encore répété quasiment, on a eu 3 périodes de 2 semaines, donc ça fait 6 semaines de répétition. Donc on a avancé, on est revenu sur des choses qu'on avait fait à Badin, on a réécrit. Même là, depuis le début des représentations à Marseille, on a joué 7 fois à Marseille et le spectacle, il a évolué tous les jours. Parce que quand on a joué le spectacle, on s'est enfin retrouvé avec notre assemblée de spectateurs et ça change beaucoup de choses dans l'écriture du spectacle. Et il a fallu s'y confronter et on a fait des tests, on s'est dit ce soir on essaye ça. Lendemain, finalement c'est pas vers là où on veut aller. Donc on reteste, on revient, on répète. Les filles ont répété à chaque fois tous les jours avant les représentations. Donc c'est un spectacle qui bouge et c'est aussi la manière de travailler dans la compagnie. On appelle ça une écriture de plateau. Alors bien entendu, Johanna, elle a fait un long travail d'écriture, elle, de son spectacle, où vraiment elle écrit des textes. Mais après, il y a beaucoup de choses, qui se trouvent sur le moment sur scène, où il y a des fois des actions qui s'inventent sur le moment qu'on décide de garder ou pas. Et donc depuis Badin, vous allez retrouver des choses dans le spectacle, des fois qui sont restées des inspirations, des petits bouts, mais ça a finalement beaucoup bougé. Mais ce qui peut-être dans les représentations dans 3 mois, on reviendra à des choses qu'on avait vues à Badin, qu'on avait peut-être écartées, mais finalement on se dit finalement c'était pas si inintéressant. Et donc c'est beaucoup de superposition en fait dans le travail, de superposition de plein de couches. Et après on étiole, on affine et le spectacle vivant comme on dit, c'est que c'est en fonction, chaque représentation est différente et des fois une idée qu'on a eue la veille qu'on a bien aimé, mais elle va pas être dans le spectacle dans 3 mois parce que finalement c'est plus l'endroit. Voilà.
Tout le spectacle est un processus en fait.
Exactement.
Dans votre spectacle, vous utilisez une scénographie, open mic. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce dispositif ?
Alors oui, quand on s'est inspiré de la radio, de l'énergie open mic, comme tu le dis, c'était finalement la scène. On en revient aussi sur le rapport scène-salle. C'est que souvent, c'est les acteurs qui vont sur scène. C'est comme un territoire sacré. Et là, on s'est dit, peut-être qu'en étant assis tous ensemble, en pouvant se regarder tous dans les yeux, ça crée une autre énergie ou un autre rapport où on se sent peut-être plus libre d'essayer des choses. On est proche aussi de la scène quand t'es sur les gradins. Tu enjambes et tu arrives sur l'espace scénique. Donc tu peux prendre la scène plus facilement et c'est joué, même si vous verrez certainement le spectacle et on en parlera plus tard, c'est au moins créer cette envie là ou se dire que tout est possible. Je crois que c'est là aussi l'énergie open mic, mais en fait on peut faire les choses, allons-y.
Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre l'intimité de la radio de nuit et l'énergie du format open mic?
Très bonne question, parce que ça, je pense que c'est beaucoup lié à l'écriture du spectacle, vraiment, où l'intime, ça se retrouve dans tous les textes qu'a écrit Johanna, où on parle de confidence, où il y a notamment un texte qu'elle livre dans le spectacle sur sa vie personnelle aussi. Donc c'est là, vraiment, on est sur des questions d'intimité, où même les sujets abordés traitent de l'intime. Et l'énergie open mic, où tout d'un coup, on peut aussi s'emparer de la scène, et on le verra dans le spectacle, où tout d'un coup, ça va déborder, c'est une danse. Enfin, comment on allie ces deux énergies? Et ça, c'est vraiment entre le travail d'écriture de Johanna au préalable des résidences, l'écriture de plateau. Cette énergie va se créer sur le plateau et communique avec l'écriture de Johanna.
Donc, avec l'open mic, vous avez des réelles interactions avec le public. Mais du coup, est-ce qu'il y a un risque de compter sur les réponses qui peuvent être imprévisibles tout en devant respecter la continuité du spectacle ?
Et oui, c'est ce qu'on s'est confronté à ça à Marseille sur les 7 représentations qui nous a permis de resserrer en fait. Sur les premières représentations, on a voulu laisser beaucoup de temps à la parole du public. Mais finalement, ça nous mettait dans une situation un peu particulière parce que, comme tu dis, tu ne sais pas ce qui va être apporté par la personne du public qui prend la parole. Sachant que nous, on a des partitions aussi écrites, il y a quand même une fiction théâtrale pendant tout le spectacle. Et en même temps, on a retravaillé pour que ce soit plus des interactions. À un moment, on a laissé cette place-là, on s'est rendu compte que c'était pas très intéressant parce que qu'est-ce qu'on fait après de la parole que nous a confié un spectateur? Si c'est pour reprendre, ok, merci, moi j'enchaîne sur mon texte. Bon, ça peut être aussi violent pour le public, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, de qu'est-ce qu'on fait de ces paroles-là, des gens qui ont osé, parce qu'il faut quand même oser. Moi, j'ai jamais osé le faire, hein, dans toutes les représentations que j'ai vues, moi, prendre le micro et réagir ou me confier sur quelque chose. Donc, c'est une vraie prise de risque qu'on a voulu qu'on teste et qui, je pense, va encore se tester tout au long des représentations de ce spectacle, jusqu'où on peut aller. Qu'est-ce qui est vraiment écrit? Est-ce qu'on fait croire à une réelle participation? Voilà, c'est tout ce qui tient ce spectacle. Et donc, à la conclusion de la série de représentations à Marseille, on s'est dit, ah, en fait, c'est plus aller demander des interactions au public. Ou en fait, le public est invité à prendre la parole, mais sur des questions déjà posées. Ce qui fait que nous, ça nous permet vraiment d'orienter et ça suit le fil quand même de la fiction théâtrale qu'on raconte.
Lysiane, avec Johanna, vous êtes toutes les deux les co-directrices de la compagnie. Pourquoi avoir fait ce choix de partager la direction ?
Alors, c'est au départ une histoire d'amitié. Avec Johanna, on s'est rencontrés, comme avec toute l'équipe de la compagnie, on a fait nos mêmes études à Aix-en-Provence en théâtre. Et après, on s'est distingués. Elle a fait un master en écriture théâtrale et moi en ce qu'on appelle gestion de projet culturel. Et on s'était dit, bah, une fois qu'on aura fini nos masters respectifs, on peut allier nos deux compétences pour monter quelque chose ensemble. On a réfléchi pendant un an et on a créé l'association en novembre 2016, Les Estivants. Et c'est un vrai choix de la défendre à deux parce qu'on a quand même deux casquettes différentes. Elle, c'est vraiment, donc on appelle la direction artistique. Donc c'est elle qui a l'initiative des spectacles qu'elle va mettre en scène, de réunir les équipes, sa scénographie, vraiment la pensée artistique. Et le volet, donc moi, c'est dans ce qu'on va appeler tout ce qui est la production. Et c'est tous les moyens qui sont là pour mettre en œuvre un spectacle. Et donc les choix, on va parler d'argent aussi à ce moment-là, de rechercher des lieux pour répéter. Dans beaucoup de compagnies, c'est souvent l'artiste qui dirige tout ça. Et sauf que l'artiste, il peut pas penser à tout. Nous, on se rend compte que c'est vraiment une force de travailler en duo. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis là toute seule parce que Johanna, elle est en répétition. Parce que elle, en tant que directrice artistique, là, elle assume pleinement sa fonction et moi, je suis là sur les tournées pour pouvoir aussi accompagner et défendre à deux. Et c'est pas toujours évident parce que même des fois en rendez-vous, moi, on me dit bon, ben, vous êtes qui ? Parce que c'est l'artiste qu'on connaît et à juste titre pour la création de ces spectacles. Mais on veut aussi, c'est un choix aussi politique parce que tous les métiers, on appelle ça l'administration, la production, la diffusion, c'est des métiers qu'on appelle de l'ombre. Souvent, les gens, on ne les voit pas. Ils sont dans des bureaux. C'est beaucoup de temps. Moi, pour monter un spectacle comme ça, je vous en parlerai peut-être après. C'est un travail conséquent aussi, mais qui n'est pas visible après sur scène. Et donc, c'est aussi défendre que pour créer des spectacles, il faut être à deux. Et puis, et je crois qu'on travaille très bien ensemble et on est très contente de ce duo. Donc, on se dit qu'on a fait le bon choix.
Comment dirige-t-on une compagnie à deux ?
Eh bien, on communique, c'est beaucoup de communication. Avec Johanna, toutes les semaines, on se fait un point régulier sur toutes les missions, tout ce à quoi il faut penser. Parce que moi, je vais avoir de mon côté production quelque chose d'un peu plus rationnel, où je suis là aussi pour cadrer les choses, où des fois, on a des envies, on aimerait faire plein de choses. Et puis après, il y a le cadre légal, il y a la situation économique de la compagnie, il y a plein de choses. Et du coup, c'est vraiment des discussions qu'on a avec Johanna et des répartitions de tâches. Et savoir qui, des fois, est à même de faire quelque chose. Si des fois, on le fait à deux, si on se dit bah non, ça c'est toi, tu le gères beaucoup mieux que moi. C'est aussi reconnaître qu'il y a des moments où on peut pas être tout le temps à deux et que des fois on peut l'être et que c'est aussi une grande force.
Quelles sont les difficultés ou les avantages d'une organisation comme celle-là ?
Comme je te dis, l'avantage, moi je pense que c'est vraiment c'est partager les joies et les peines à deux, parce que c'est pas évident, c'est des projets quand même qui sont longs, tout ce qui est la création, ça prend du temps. L'artiste, il est face à des doutes, on n'occupe pas les mêmes places. Et du coup, la force, c'est de pouvoir toujours se soutenir là-dedans. La difficulté, c'est que dès que tu travailles avec quelqu'un, c'est que des fois, sur certaines discussions ou certains sujets, tu vas pas forcément être d'accord. Et du coup, quel compromis on trouve ? Mais ça, j'ai l'impression que ça s'apprend tous les jours, mais ça fait partie de la vie aussi. Et qu'avec Johanna, on arrive à se dire les choses. Je pense que la communication, c'est le maître mot dans une co-direction.
Lysiane, tu es directrice administrative. Donc, quel est ton rôle dans la compagnie et quelles sont tes missions ?
Alors, moi, j'appellerais ça plus directrice de production. Mais t'as raison, administratif, parce que ça va rejoindre toutes les tâches liées. Alors, quand on parle de production, c'est tout ce qui est la production d'un spectacle. Ça va être la recherche de financement pour créer un spectacle, parce qu'il faut de l'argent pour qu'on puisse se rémunérer. La recherche de lieux de répétition, parce qu'il faut des lieux pour qu'on puisse répéter. Et c'est lié avec tout un travail déjà de diffusion, parce qu'une fois que le spectacle qui va être créé, l'important pour nous, c'est qu'il puisse continuer à vivre, parce que c'est dans la rencontre avec le public aussi que le spectacle vivant avance, je trouve. Donc c'est organiser aussi toutes les tournées. Et au sein même de la compagnie, moi, je trouve aussi qu'à la production, c'est un peu le maillon qui fait le lien entre toutes les professions d'une compagnie. C'est-à-dire qu'il y a la direction artistique, il y a les comédiennes, il y a la technique, il y a des fois les personnels extérieurs quand on va travailler dans des lieux qui ont aussi d'autres règles. Et à la production, tu fais au mieux pour que tout se déroule bien pour tout le monde. Tu as un peu l'endroit où il faut comprendre le planning technique. À un moment, le gradin, il va falloir le monter en 3 heures qu'on peut pas. Mais le plateau, l'équipe voulait répéter dès 11 heures. Comment on fait? Enfin, c'est trouver toute cette organisation-là. Moi, je pense que c'est ce qui me plaît beaucoup aussi dans ce métier, c'est d'essayer de comprendre chacune des professions sans les gérer totalement. Moi, à un moment, mes compétences en technique s'arrêtent hein, quand on commence à employer trop de termes que je ne comprends pas. Mais d'essayer de faire une harmonie d'équipe, en fait. Je trouve que je définirais ça comme ça. Et après, tu as tout le cadre. Il y a quand même l'administration. C'est que, comme tout, c'est notre travail. Donc, ce travail, il se fait dans un cadre légal, comme je vous disais, un cadre économique, et qu'il faut veiller à son bon fonctionnement. Donc, ça va être aussi la veille du budget. Moi, là, j'ai un budget sur la production de ce spectacle. Et il faut que je fasse attention à ce que j'ai pas trop dépensé, que j'ai l'argent en banque pour pouvoir acheter les décors, payer mes comédiennes chaque mois. Donc, c'est toute cette veille-là et cette responsabilité. Donc, c'est un rôle qui est quand même assez important, et que souvent, comme je vous disais, qu'on ne voit pas trop, parce que c'est du travail où beaucoup des fois dans les bureaux, hormis quand je suis pas sur les répétitions ou sur les représentations. Là, un spectacle comme celui-ci, donc là, les premières représentations, elles ont eu lieu le 27 septembre 2024. Nous, avec Johanna, ça fait... on a commencé à en parler en février 2022, je crois. Donc, ça fait quasiment 2 ans et demi. Voilà, il y a un peu l'idée du projet et c'est un peu le formaliser. Johanna va penser tout qu'est-ce que artistiquement elle a envie de faire pour son prochain spectacle. Et moi, c'est OK. Comment on va le mettre en œuvre? Combien de semaines de répétition t'as besoin? La scénographie, ça a été... Là, on a fait construire des gradins. C'est un sacré investissement pour la compagnie. C'est une énorme dépense. Donc, OK, est-ce qu'il faut qu'on fasse ces gradins? Dans quelles conditions? Donc, c'est toute cette réflexion-là qui accompagne la direction artistique. D'où je reviens sur la précédente question, de travailler à deux, ça amène beaucoup plus de force, on se sent moins isolé.
Et donc, tu es toujours sur les tournées, les temps de création artistique ?
Maintenant, oui. Alors, parce que pendant longtemps, moi, j'ai travaillé aussi sur d'autres compagnies de théâtre qui ne me permettaient pas de pouvoir suivre les tournées et les répétitions comme je voulais. J'étais beaucoup au bureau. Il y a eu le Covid qui est passé par là où je me suis dit, oulala, c'est quand même très compliqué. parce qu'on a dû nous faire tout le travail aussi d'annulation des spectacles, de report, où finalement, j'étais tout le temps devant mon ordinateur toute seule. Et je me suis dit, je pourrais faire ça pour, je sais pas, être caissière, être secrétaire de n'importe quelle personne. Je trouvais plus le sens de pourquoi je faisais ce métier-là. Et j'ai arrêté de travailler avec les autres compagnies. Je me suis vraiment consacrée aux estivants pour avoir justement ces temps-là où, moi aussi, c'est gratifiant quand enfin j'arrive et qu'il y a et je rencontre le public et qu'on voit le spectacle se faire et qu'il y a les répétitions. Et aussi parce qu'avec les estivants, on a vraiment une organisation de troupe où, pendant les temps où je suis en répétition, je fais pas que du travail administratif à côté. C'est que j'ai passé du temps, à un moment, toute une journée où je vais assister aux répétitions et ça permet aussi d'en discuter, même si moi je me mets. Je me dis pas, ça c'est mon idée, il va falloir la faire, mais de dire, moi je le ressens comme ça, d'avoir toujours un regard extérieur aussi. Et voilà, et parce que je pense qu'en effet, comme je disais, c'est bien de rencontrer les gens, et que je me suis travaillée dans mon bureau toute seule, ça a ses limites.
Comment se déroule votre processus de création ?
Alors, le processus de création, on a beaucoup de temps de répétition, là sur ce spectacle de résidence au plateau, donc c'est-à-dire avec toute l'équipe des comédiennes à travailler dans des salles de spectacle. On a quasiment 12 semaines, ce qui est long. Dans les temps qui courent, on a de moins en moins de moyens, donc souvent on veut répéter en peu de temps. Mais nous, on a besoin d'expérimenter. Johanna, elle a besoin de voir. Donc ce que je vous expliquais aussi sur le travail de l'écriture de plateau, c'est qu'elle va arriver avec des idées. Il y a des choses qui se passent et finalement, ah oui, attends, ça garde. Et des fois, c'est pas quelque chose qui est prévu. Une comédienne qui va tomber. Ah oui, mais c'est intéressant que tu fasses une chute à ce moment-là. Vas-y, on continue. Il y a plein de choses qui s'inventent sur le moment. Et après, Johanna, elle a tout un travail pareil de l'ombre qu'on voit pas vraiment, où elle travaille tous les jours sur son texte, à réfléchir à la cohérence de son spectacle, à ce qu'on appelle tout ce qui est la dramaturgie. Mais c'est, comme je le disais avant, c'est un travail quand même de troupe où on aime bien tout ensemble sur les résidences pour pouvoir tester aussi les choses. Ah, tiens, je voudrais un costume de fraise, vas-y, et ben, teste avec ça. Voilà, c'est de pouvoir voir très vite de suite et l'expérience, c'est comme ça qu'on travaille.
As-tu un souvenir qui t'a marqué lors de votre première semaine de représentation à Marseille ?
Oui, alors moi, le souvenir, ça va peut-être vous paraître bête, mais le soir de la première représentation, moi, j'accueille le public dehors, je gérais les invitations avec les professionnels, donc j'étais pas encore rentrée dans la salle, donc je suis rentrée en dernier dans la salle, et de voir le gradin enfin occupé de... On était combien ? C'était une jauge à 116, donc il y avait 116 personnes sur les gradins. Et ça a été une image très forte, parce que ces gradins, on les a reçus, nous, en juillet. On a beaucoup répété avec des gradins vides. Donc il y avait juste les comédiennes, l'équipe artistique, technique et moi. Et bon, bah, à un moment, on commençait à s'enlacer de répéter. Nous, on faisait comme si on était du public, mais bon, à un moment, toute seule, on ne représente pas 116 personnes. Et j'ai eu vraiment une grande émotion de rentrer et me dire... Ça y est, on y est et les gens sont. Enfin, on a réuni les gens et on va pouvoir y aller. Le spectacle se lance.
Dans l'esprit de Allo Macha, vous proposez une représentation de Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule à minuit. Est-ce que jouer à minuit est un challenge pour vous ?
Oui, c'est un vrai challenge parce qu'on l'a jamais fait. On est très content de le faire. Et c'est Philippe, donc l'ancien directeur de la passerelle, qui nous avait proposé ça, de dire allez, ben on est sur le thème des confidences de la radio. On fait une représentation à minuit. Et en fait, c'est rare qu'on puisse sortir des cadres comme ça aussi dans les théâtres et de proposer une autre expérience. Donc ça va être un challenge parce qu'il va falloir nous tenir quand même jusqu'à minuit. Enfin, l'organisation de la journée du vendredi va être particulière et qu'on l'a jamais fait. Et en même temps, on se dit que c'est aussi notre rencontre. Parce que le public, là, quand tu le rencontres à minuit, c'est peut-être pas la même disposition quand il vient voir un spectacle à 20h. Et inversement, pour nous aussi, en tant que... Enfin, je parle pour l'équipe artistique, mais de jouer à minuit, je pense que ça va changer des choses. Et en même temps, on n'a pas trop le temps d'y penser, là. Mais je pense que c'est bien aussi de se laisser porter par ça. Et d'avoir la possibilité de le faire, en tout cas.
Pourquoi votre compagnie s'appelle-t-elle Les Estivants ?
Alors, ça remonte, c'était en 2016. Parce qu'on voulait que la compagnie, il y avait... Ce côté troupe qu'on avait entre nous, on se disait, mais en fait, on n'est pas au travail, on est ensemble. Il y avait un côté des vacances. Pourquoi séparer le travail des vacances ? Est-ce que finalement, entre nous, on n'est pas toujours en vacances et d'amener aussi cette énergie-là ?
Finalement, si vous pouviez dire quelque chose à l'enfant que vous étiez, qu'aimeriez-vous lui transmettre ?
Très bonne question. Ben, vraiment, ça va vous paraître cliché, hein, d'une... Mais quand on a 31 ans, on se dit purée, quand même la liberté qu'on a quand on est enfant de pouvoir faire les choses sans se poser de questions. Et ben, faites-le, continuez.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces confidences que vous nous avez données à travers de cette émission. On vous dit au revoir et merde pour votre spectacle.
Et alors, je ne vais pas dire le mot que je devrais vous dire parce que ça porte malheur, donc je vais dire on prend.
Nous remercions Lysiane de nous avoir accordé cette interview.
Nous remercions également l'ensemble de la compagnie Les Estivants.
Les Ambassadeurs du Théâtre est un projet porté par le Théâtre La Passerelle en partenariat avec RCF Alpes-Provence.
Arrêt culture.